Tous les vendredis, le rabbin Jonas sur Koulam Radio.
Cauchemar en URSS, le nom d'un ouvrage écrit par un juif français, Boris Lifshitz, alias Boris Souvarine, communiste repenti, où est décrite la famine qui frappa au début des années 30 l'URSS, la grande Russie de l'époque, et qui causa la mort de près de 5 millions de personnes, selon les estimations de certains historiens. Cette famine avait été provoquée par la collectivisation à marche forcée de l'agriculture soviétique par Staline, en dépossédant totalement ou partiellement les paysans soviétiques de leurs lopins de terre et en les transformant en ouvriers au service de ces kolkhozes, ces grandes exploitations agricoles. Car si le vol figure parmi les 10 commandements, fondement de toute vie sociale et spirituelle, voler la terre d'autrui est encore plus grave selon notre paracha de Shoftim, où l'Éternel nous ordonne « L'otasig qui voulerait acha, tu ne reculeras pas les bornes de ton prochain qu'avaient posé les anciens ». Et Rachid s'étonne cette interdiction de voler la terre de son prochain qui a priori est déjà incluse dans l'interdiction générale de ne pas voler. Et Rachid répond que la Torah spécifiait le vol de la terre pour souligner sa gravité. Et le Ben Ezra ajoute que la Torah fait suivre cette interdiction de voler la terre de l'autre par la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Car si un homme peut supporter la perte d'un peu d'argent, l'homme est prêt à tout pour défendre sa terre, qui est une partie de lui-même, sa richesse, son lieu de vie, la source de sa subsistance. Et le Abravanel complète le tableau en faisant remarquer que nombre de conflits au cours de l'histoire sont liés à des questions territoriales, ce que souligne la Torah en évoquant aussi le déclenchement d'une guerre peu après cette interdiction de l'otasig, ne pas voler la terre d'autrui. Et le Ramban nous permet d'approfondir le sens de cette interdiction de l'otasig, car la Torah désigne les anciens qui ont fixé les limites des terrains de chacun, comme les Rishonim, littéralement les premiers. C'est-à-dire, selon le Ramban, Josué, le conquistador du pays de Canaan, et Élazar, le grand prêtre, fils d'Aaron, et les chefs des 12 tribus, qui tous habitaient de l'esprit sacré, ont attribué à chaque famille la terre qui lui revenait. Car si nous savons que tout voleur, au-delà de la souffrance qu'il inflige à sa victime, tout voleur défie ouvertement l'Éternel en s'accaparant des biens illégalement que le Tout-Puissant n'avait pas jugé bon de lui donner. Mais pour la terre, et plus particulièrement celle d'Israël, le voleur, attente à toute notre histoire, incarné ici par Josué et Élazar, le socle commun du peuple juif, la base de notre unité et de notre identité. Le Al-Shir HaKadosh va, comme souvent, nous transporter dans une autre dimension, en rappelant que selon nos sages, la terre d'Israël à l'origine était infiniment plus grande que le petit territoire qu'elle est devenue aujourd'hui. Comment a-t-elle rétréci ? S'interroge cet immense kabbaliste. Et il répond que la terre d'Israël est surnommée la terre du cerf, car selon le Talmud, tel est le cerf dont la peau s'élargit ou diminue selon le corps de l'animal. Ainsi la terre d'Israël a cette faculté, selon le mérite de ses habitants, de s'agrandir ou au contraire de se contracter. Et que chaque faute a un impact direct sur la terre d'Israël, comme s'il déplaçait les bornes fixées par Josué et Élazar. Et inversement, chaque bonne action contribue à ramener la terre à sa taille originelle. Dès lors, on comprend mieux pourquoi, dans les malédictions de la paracha de Kitavo, aux côtés des pires des fauteurs, comme l'idolâtre, la personne incestueuse, figure aussi maudit celui qui déplace la borne de son prochain. Pour ceux qui ne disposent que de 3 minutes, ils peuvent s'arrêter d'écouter. Pour les autres, je les invite à suivre le Sifri qui nous entraîne dans une toute autre direction, dans la compréhension de cette interdiction de l'otasig. En effet, selon le Sifri, commentaire tanaïtique sur la Torah, celui qui, dans le cadre de son étude, attribue, par erreur ou volontairement, un enseignement, par exemple, de Rabbi Eliezer à Rabbi Yoshua, ou inversement, tombe sous le coup de l'interdiction de l'otacig, qui est interprétée comme l'interdiction de ne pas empiéter sur le domaine d'autrui, respecter la propriété intellectuelle de l'autre, dans le domaine sacré spécialement, car le Malbim fait appel à la Kabbale pour décrire que dans les mondes supérieurs, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua occupent grâce à la qualité de leur enseignement des positions distinctes et qu'en inversant leur enseignement, on provoque un remue-ménage au ciel. Mais dans le domaine profane aussi, les juges contemporains, les Dayanim, se fondent sur cette interdiction de l'otacig pour faire respecter les droits d'auteur, même sur des œuvres entièrement dématérialisées. Et le Talmud de Jérusalem applique même ce principe de l'otacig aux démons, en narrant qu'une fois, Rabbi Chinana Bar Papa est sorti la nuit pour distribuer la charité. Il rencontra un démon, mi-ange, mi-homme, qui lui reprocha « Pourquoi t'aventures-tu à l'extérieur la nuit? Ne sais-tu pas que c'est notre domaine réservé ?» Le Degel Machane Ephraim propose lui un très bel éclairage chassidique à ce lotassig, un peu trop long, mais pour les plus courageux d'entre vous. On terminera malgré tout sur une inspiration chassidique en expliquant ainsi. Ne déplace pas les bornes de ton prochain. Renvoie à toutes les barrières que l'Éternel, surnommé ici Reacha, dans le sens ton bien-aimé, adressé dans notre vie de tous les jours. C'est en un mot les lois de la Torah. Et que les bornes que les anciens avaient posées fait référence à toutes les limites que nos sages ont établies pour protéger les barrières de la Torah. Car comme le fait remarquer Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch en jouant sur l'homonymie de Massig, qui peut signifier obtenir ou reculer. L'Éternel et les sages ont tracé des lignes blanches autour du terrain, du domaine, de son prochain ou autour de notre existence. Et franchir ces lignes blanches peut paraître pour le fauteur comme une acquisition, l'obtention d'un bien, d'un droit supplémentaire, massig en hébreu avec la lettre sin, alors qu'en fait il est massig avec la lettre samer. Il recule, il fait un pas en arrière, parfois dans le vide. Shabbat shalom à vous tous. Coulam.